Bonsoir. Heureux de vous voir aussi nombreux pour cette soirée consacrée à Bernard Aymon. Vous le savez sans doute, depuis le début de l'année 2010, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, en collaboration avec le Festival international de la littérature, présente une série d'entretiens avec des artistes de toutes disciplines, qui, ici, sur cette scène, parle du rapport qu'ils entretiennent à la littérature. Après le maestro Kent Nagano, la metteur en scène de théâtre Brigitte Henkens, la chorégraphe et danseuse Marie Chouinard, autour ce soir d'un grand cinéaste, de nous parler de la place de la littérature dans sa vie d'homme et d'artiste, Bernard Aymon. Bernard Aymon a fait des études en anthropologie et a rédigé un mémoire sur le cinéma ethnographique. Dans les années 1970, il réalise et monte des vidéos qui véhiculent critiques et revendications quant au système scolaire, aux conditions de travail dans le secteur de l'aluminium et à l'industrie de la musique populaire. Après avoir habité le Grand Nord durant des années, il travaille à la recherche, au scénario et au montage de nombreux documentaires et dramatiques. Bernard Aymon se fait véritablement connaître comme réalisateur avec « Ceux qui ont le pas léger meurent sans laisser de traces », une réflexion sur la dignité et sur l'anonymat urbain à travers le portrait d'un homme ordinaire mort à l'âge de 76 ans. Il tourne un premier long-métrage de fiction en 2000, « La femme qui boit », suivi de « 20h17 rue Darling » en 2003, et d'une trilogie sur les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, la neuvaine en 2005, contre toute espérance en 2007 et la donation en 2009. L'Université Saint-Paul lui décernait le printemps dernier un doctorat honoris causa en insistant sur le fait que les thèmes principaux de l'œuvre de Bernard Aymon sont la dignité et la fragilité humaine, ainsi que la perte des repères culturels. L'Association québécoise des critiques du cinéma accordait tout récemment à son film « La neuvaine » le titre de « Film de la décennie 2000-2010 ». La semaine dernière, Bernard Aymon s'associe à l'écrivain Yvon Rivard pour proposer un montage de texte de l'écrivain et essayiste Pierre Vadeboncœur, texte lu par la comédienne Françoise Fauché lors d'un hommage à l'auteur des Deux Royaumes au studio littéraire de la Place des Arts. La Cinémathèque québécoise présentera les mercredis 8, 15 et 22 décembre à 18h30 les trois opus de la trilogie de Bernard Aymon. Et le 7 décembre, la semaine prochaine, paraîtra aux éditions Les 400 coups le scénario du film La Donation. Pour toutes ces raisons, et surtout parce qu'il entretient depuis longtemps des affinités électives avec nombre d'écrivains qui demeurent pour nous des contemporains capitaux, j'ai l'immense plaisir ce soir de m'entretenir avec le cinéaste Bernard Aymon. Bonsoir Bernard.
Bonsoir et bonsoir aux braves.
Qui ont bravé la pluie et les intempéries pour venir vous entendre. L'année dernière, paraissait aux éditions Mediapol un livre d'entretien avec Simon Galliero, des entretiens sur le cinéma, la culture et la société que je vous recommande tous d'ailleurs ardemment. J'aimerais simplement citer quelques phrases que vous énoncez en début de livre et qui me semble assez fondatrice. J'ai eu de bons professeurs, et mon amour de la littérature vient d'eux. Je me souviens d'un professeur de littérature, Jean-Pierre Questemann. Il était en fait historien, et il est devenu plus tard vice-recteur de l'Université de Sherbrooke. Je me rappelle qu'il nous avait donné à l'automne 68 un cours de littérature dont le thème était la révolte. Et il nous avait fait lire, entre autres choses, « L'homme révolté ». C'était quand même extraordinaire de voir cet homme de culture qui est lui-même remis en question par ce qui s'était passé en Europe au printemps précédent, avait décidé de nous faire un cours où on allait lire ces choses-là et en parler. De cet enseignement me vient donc l'amour de la littérature, en tout cas l'idée que la littérature est une chose qui a de l'importance. Et je peux dire que ces années, cette éducation, ça m'a permis de sortir de moi, ça m'a obligé de sortir de moi. Là, on a quelques pistes qui pourraient nous permettre de parler pendant des heures. Alors, ce monsieur Kesteman et Camus ont été fondateurs, si je comprends bien.
Oui, vraiment. Toutes ces années-là, où, bon, j'ai découvert les grands classiques, on nous faisait lire Balzac, Zola, mais à cause de Kesteman, je me suis intéressé à Camus, à Sartre, à Simone de Beauvoir, et j'ai découvert des choses que je n'aurais pas découvertes autrement. De lire Les chemins de la liberté à Sartre. Dieu sait que je ne comprenais pas grand-chose à 16-17 ans à ce que je lisais,
ouais.
Mais en fait, j'ai quand même découvert qu'il y avait eu la guerre d'Espagne,
ouais.
Qu'il y avait une gauche européenne.
Ouais.
J'ai découvert plus tard ces modèles. Je me suis rendu compte en lisant bien plus tard Dos Passos que Sartre avait pris son modèle narratif-là. Mais bon, à travers cette éducation, à travers ces livres, c'est le monde que j'ai découvert.
Ouais. Parce que parler de cette génération-là, c'est parler d'un moment marquant de l'histoire littéraire française, mais c'est parler aussi d'écrivains inscrits dans l'histoire.
Oui, absolument.
Dans l'histoire avec une grande hache, comme disait Georges Perec.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, bon, on se met à lire ce qui concerne la politique, on se met à découvrir la gauche, on se met à découvrir les auteurs russes. En fait, c'est par la littérature que j'ai découvert le monde. Je vois pas comment le dire autrement. C'est vraiment la littérature qui m'a fait sortir de moi, qui m'a fait découvrir l'histoire mondiale, qui m'a fait découvrir l'histoire politique.
Alors, pour vous, la littérature est moins le lieu d'exploration d'une intériorité qu'un lieu qui permette de nommer le monde.
Ben, je sais bien que c'est aussi le lieu de l'expression d'une intériorité, sauf que ça n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Pour moi, la littérature est quelque chose qui doit aller vers le monde, comme nous devons aller vers le monde. Il y a de grandes œuvres dont je me prive parce que je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour l'introspection. À cause de toutes sortes de facteurs, j'aime les œuvres qui font sortir l'auteur de lui-même, qui vont aller vers le monde, qui nous font découvrir. En fait, pour moi, la littérature, c'est un moyen d'exploration de l'autre et du monde.
Alors, Camus, plus que Virginia Woolf.
Ah, beaucoup, beaucoup plus.
Oui.
Oui, beaucoup plus. C'est sûr que ce qui m'a formé, en fait, c'est le réalisme social français. C'est la grande lignée qui va de Balzac à Zola, à Romain Rolland, Jules Romain, ces grands auteurs des années 30 qui faisaient des tartines. J'aime ça. C'est pas de la grande littérature, souvent. J'ai lu cet été parce que je pense pas que je vais le relire. J'ai lu cet été Les Hommes de bonne volonté de Jules Romain. Alors, c'est 2000 pages, et tout n'est pas bon. C'est pas de la grande littérature, souvent, mais en même temps, c'est toute une époque qui passe par là.
Oui, oui.
On est témoin d'une tranche de l'histoire française, de la vie politique française, des mœurs françaises. Et ça, même si les qualités littéraires sont pas à la hauteur du projet, moi, ça m'intéresse.
Mais j'aimerais que vous reveniez un peu plus longuement sur Camus.
Oui.
Qui a été fondateur, bon, vous le disiez dans ses entretiens, et qui a une position éthique qui ressemble beaucoup, il me semble, à celle de Bernard Raymond.
Moi, je pense qu'au centre de son œuvre, il y a un questionnement moral sur le monde. Il se pose la question des conduites humaines, constamment. Ce que je fais, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur les autres?
Oui. En n'oubliant jamais sa mère.
Non.
Analphabète.
Oui.
À qui il va dédier son dernier livre, qui est peut-être le plus beau.
Oui. Oui, La Chute, c'est pas La Chute, Le Dernier Homme, c'est un livre extraordinaire. Et effectivement, la mémoire de cette enfance pauvre ne le quittera jamais. et fait qu'il a toujours été préoccupé par la dignité humaine.
Oui.
Mais aussi, ce qu'il y a de beau chez Camus, c'est que ça n'est pas un moraliste rigoriste. À mon sens, c'est un grand moraliste. Mm-hmm. Mais l'enfant de la Méditerranée est toujours là. L'amour de la lumière, l'amour de la mer, je ne sais pas comment dire. Pas un janséniste, mais alors là,
non,
pas du tout.
Au contraire.
Et cette espèce d'équilibre-là entre les préoccupations morales et un grand amour de la vie, ça en fait un auteur extraordinaire.
Est-ce que vous avez lu La crise de l'homme?
Non.
Il y a très peu de gens qui connaissent ce texte-là, et je l'ai apporté, je vous le donnerai la copie après,
merci.
Parce que le texte a été trop peu publié, il a trop peu circulé. En 1946, Camus est invité à l'Université Columbia à présenter une conférence sur l'état de la littérature et du théâtre en France. Il accepte de prononcer la conférence, mais il refuse le sujet imposé et décide plutôt de parler de la crise de l'homme. Je vous lis seulement trois lignes, Bernard. L'homme en Europe aujourd'hui n'éprouve que solitude et silence, parce qu'il ne peut communiquer avec ses semblables en termes de valeurs communes à tous. Et comme il n'est plus protégé par un respect pour l'homme basé sur les valeurs de l'homme, l'alternative qui lui reste, c'est d'être la victime ou le bourreau. Quelques lignes plus loin. Si l'on ne croit en rien, si rien ne donne de sens et que nous ne parvenons à trouver de valeur en rien, alors tout est permis et rien n'a d'importance. En conséquence, il n'y a ni bien ni mal, et Hitler n'avait ni raison ni tort.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ce texte devrait être obligatoire aujourd'hui.
Oui. Ben, c'est Dostoïevski.
Oui.
Hein? Si Dieu n'existe pas, tout est permis.
Oui.
Marcel Gauchet le dit autrement. Il dit, l'homme n'existe que dans et par la culture. Mm-hmm. Or, il refuse aujourd'hui l'autorité qui est nécessaire à sa transmission.
Oui.
Alors, on en est là.
Le paysage n'a guère changé entre 1946 et 2010.
Ah, moi, je trouve beaucoup. Parce qu'en 1946, un lien organique avec ces valeurs-là était encore intact.
Malgré ce que dit Camus,
Malgré ce que dit Camus, c'était encore là. Ici, ça l'était. Ça passait par toutes sortes de canaux. Et maintenant, il faut repartir à zéro. Je pense que le lien avec la culture du passé, il n'est pas complètement coupé. On ne serait pas ici ce soir devant tous ces gens. Mais l'espèce de respect que nous sentions, que nous devions à des choses qui étaient plus grandes que nous, on sentait ça quand on était plus jeune. Alors ça, je ne suis pas certain que ce soit encore là. Et c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que si on coupe le lien avec la culture du passé, mais il ne s'agit pas seulement des grands monuments culturels.
Ou de vénérer des objets de musée,
non.
C'est pas ça.
Non, c'est qu'il y a quelque chose de vivant
oui.
là-dedans. Il y a quelque chose de vivant dans ces œuvres-là qui ont formé beaucoup de personnes de ma génération. Il y a quelque chose de vivant, un rapport vivant au monde,
oui.
Un rapport aux valeurs, un questionnement moral.
Oui.
Et par-dessus tout, l'idée que tout n'est pas égal à tout.
Tout ne se vaut pas.
Tout ne se vaut pas. Alors ça, c'est un anathème maintenant. On ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas dire, par exemple, que Bach est supérieur à Céline Dion. On ne peut pas dire ça. On va se faire ramasser. C'est terrible.
Et Camus, dans cette conférence, sonnait déjà l'alarme.
Ah oui. Oui. On peut compter sur Camus pour mettre le doigt sur le bobo.
Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que vous serez d'accord avec moi, Sartre est devenu du papier mort pour chercheurs.
Oui.
Et l'œuvre de Camus reste terriblement vivante.
Oui, oui. Ça m'empêche pas de garder un grand respect pour certaines œuvres de Sartre. Mm-hmm. J'ai parlé des Chemins de la liberté. Je considère que c'est un grand roman.
Son essai sur Flaubert.
Son essai sur Flaubert, que je n'ai pas réussi à lire au complet. Mais les Chemins de la liberté...
L'a-t-il même lui-même lui, lu,
ben, c'est ce qui arrive quand on écrit en prenant des amphétamines. Ça... Oui. Mais c'est vrai, Sartre tombe dans l'oubli. C'est les choix politiques qu'il a faits. Apparaissent maintenant presque monstrueux, alors que Camus, le questionnement moral de Camus reste aussi important qu'au premier jour.
Et je le disais, donc, parler de la littérature française de cette époque, c'est parler d'une période extrêmement riche, mais c'est parler d'écrivains inscrits dans l'histoire. Il y en a un qui leur était contemporain et qu'on ne lit, hélas, presque plus, et qui, je sais, a eu beaucoup d'importance pour vous, c'est Aragon.
Oui. Oui. Peu de gens savent maintenant à quel point c'est un romancier extraordinaire.
On l'associe au surréalisme, alors qu'il est inscrit dans le réel, peut-être beaucoup plus que bien de ses contemporains.
Oui. Oui, mais bon, il y avait les deux pieds dans le surréalisme au début, ça se sent dans ses premiers romans, mais plus on vient vers l'époque actuelle, plus ses romans deviennent des romans réalistes. Les Cloches de Bâle, Les Voyageurs de l'Impérial sont des romans extraordinaires. Aurélien, si vous n'en lisez qu'un, lisez celui-là. C'est un grand, grand, grand roman. Et je ne sais pas comment nommer ça, les errements politiques d'Aragon, n'entache pas ses romans. Aucunement. Pas plus qu'il n'entache d'ailleurs la plus grande partie de sa poésie. Ça reste un grand, grand écrivain, attaché au réel, mais aussi un... Et c'est curieux parce que ça n'est pas seulement un écrivain qui rencontre de la réalité sociale et politique, c'est un grand écrivain des sentiments. Un grand écrivain du sentiment amoureux.
Pas de la sentimentalité, du sentiment.
Du sentiment amoureux. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout chez lui, comme chez à peu près tous les auteurs, tous les écrivains que j'aime, c'est cette rencontre du social et du personnel. Ouais. C'est de sentir que ces personnages sont enfoncés jusqu'au cou dans l'histoire, mais que l'histoire ne les détermine pas complètement. Qu'il y a quelque chose d'indéterminé et d'humain en nous, qui échappe en partie. Ça s'appelle la liberté. Et ça, c'est présent chez Aragon.
Il vous semble essentiel que l'histoire individuelle et collective soit toujours intimement tissée dans une matière romanesque?
Il manque pas de grandes œuvres pour faire autrement.
Vraiment?
Oui, je pense. Oui, il y a... Beckett. Ben, alors, Virginia Woolf, par exemple, Beckett. On peut pas dire que l'histoire britannique
est inscrite dans l'œuvre de Virginia Woolf.
Pas vraiment. Non. Mais pour moi, pour ce que j'y cherche, c'est que moi, je viens des sciences humaines et je sais tout ce que les sciences humaines ont, je sais ce qui manque aux sciences humaines. Et ce qui manque aux sciences humaines, je le trouve dans le roman. La liberté a quelque chose de, la liberté individuelle a quelque chose qui n'est pas le territoire des sciences humaines. Or, comment parler de la vie si on n'en tient pas compte? Si on ne tient pas compte du réseau épouvantablement compliqué de causes, de tenants, d'aboutissants, Et pour moi, c'est le territoire du roman. Je ne dirais pas que le territoire du roman, c'est l'indéterminé, parce que... on est aussi déterminé, mais on ne l'est pas complètement. C'est cette espèce de jeu... C'est l'insondable mystère de n'importe quelle personne. Et c'est ça le territoire du roman, mais il faut remettre ça dans l'histoire, à mon sens. Parce que sinon, on ne comprend rien.
Rattaché à l'histoire, attaché au réel, comme vous le disiez tout à l'heure à propos d'Aragon.
Tout à fait, oui.
D'ailleurs, bon, vous le savez sans doute, vous avez tenu, Bernard Raymond, un carnet dans la revue Relations pendant un an, en 2009-2010. Et votre dernier carnet, paru dans le numéro 742 d'août 2010, est intitulé « Le réel ». Je vous lis simplement le paragraphe d'ouverture. « Le réel existe. malgré tout ce qu'on dira de la déréalisation du monde, de la puissance des médias, du poids écrasant de la culture de masse, du déluge d'images mensongères auxquelles nous sommes quotidiennement soumis, de la cacophonie ininterrompue qui nous accompagne et rend l'acte de penser de plus en plus difficile et précaire, le réel existe, il continue d'exister malgré tout. Et la littérature serait donc le lieu qui permet de toucher, de nommer quelques précieuses parcelles de réalité.
Un des lieux. Et la littérature, comme le cinéma, comme les autres arts, sont aussi soumis à une forte tentation de se détourner du réel. Mais oui, la littérature permet ça.
Et pas en employant uniquement la voie du réalisme.
Non, du tout. Du tout. On parlait de Pérec tout à l'heure. Alors moi, je trouve qu'il y a dans Pérec, par exemple, des choses extraordinaires.
Absolument.
Pas seulement dans son roman Les Choses, qui est un très beau roman, mais moi, je suis un amoureux d'Un homme qui dort. Mm-hmm. Livre magnifique.
Absolument. Écrit à la deuxième personne du singulier.
Oui. Et c'est d'ailleurs là que j'ai pris l'idée de la narration dans Ceux qui ont le pas léger meurent sans laisser de traces. Pour me rendre compte plus tard que Ferron l'avait utilisé dans Papa Boss et que c'est un procédé. Bon.
Et on parlait tout à l'heure du rapport entre histoire individuelle et collective. Oui. Dieu sait que c'est présent chez Pérec.
Oui.
Où l'ombre des parents disparus à Auschwitz, où la disparition est très présente. De façon parfois ludique, certes, mais toujours très présente. Oui.
La vie mode d'emploi, c'est un grand livre.
C'est un immense livre.
C'est un grand livre. Mais ça m'éloigne un peu de la groove du réalisme social.
Mais c'est une façon de dire qu'on peut toucher le réel.
Absolument.
En n'obéissant pas à la voie du réalisme.
Tout à fait, tout à fait.
Peut-être même encore plus.
Oui, oui. Et bon, il y a des échos de Peaubouille dans La vie mode d'emploi. Oui. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans la littérature qui est... La littérature continue. Et pour moi, c'est une chose qui est importante. Alors, on ne peut pas lire Pérec, on ne peut pas lire La vie mode d'emploi sans penser à Zola. Et pour moi, c'est important. Ces filiations-là, en littérature, en cinéma, en art, sont importantes.
Et vous sentez une filiation, on a parlé jusqu'à maintenant surtout de littérature de langue française ou française. C'est prioritairement les livres vers lesquels vous vous tournez encore aujourd'hui. Sont ceux qui vous ont nourri le plus?
Pas nécessairement. Il y a beaucoup d'auteurs américains et britanniques que j'aime. J'ai une affection particulière pour Graham Greene, grand moraliste lui aussi.
Oui. Vous avez évoqué Dos Passos.
Dos Passos, que j'ai beaucoup aimé. Saul Bellow, que j'aime vraiment énormément. Il y a quelque chose chez Saul Bellow qui m'émerveille complètement. C'est cette espèce de mélange de sensibilité pour la vie de la rue. L'espèce de grit de la vie américaine. Oui. Et deux pages plus loin, on est dans des réflexions philosophiques de haute volée. Mm-hmm. Et ça me semble, en tout cas chez Bellow, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis ça me semble rendre compte de quelque chose de vrai. Parce qu'on a les deux pieds dans la boue, mais en même temps, la boue, on la pense, et il faut qu'on la pense. Alors, de faire l'un sans l'autre, c'est pas possible. Bellow, pour moi, c'est l'exemple d'un écrivain complet. Et quel style extraordinaire. Mm-hmm. Philip Roth aussi, dont j'aime pas énormément certains romans, mais il y en a d'autres comme I Married a Communist ou American Pastoral, qui sont des grands, grands livres.
Inscrits dans l'histoire.
Inscrits dans l'histoire, absolument, complètement. Ouais. Steinbeck. Mm-hmm. J'ai vu récemment le film que John Ford a tiré de Des raisins de la colère. Mm-hmm. Et ça m'a donné envie de relire Des raisins de la colère. D'ailleurs, je me souviens avoir lu les carnets de Steinbeck. Alors qu'il écrivait Les raisins de la colère, il tenait un journal. Alors, ça a été publié il y a quelques années. Et lui qui a... pour moi, Les raisins de la colère, c'est un des grands romans du 20e siècle. Alors, on peut lire Steinbeck, c'est notre... je suis vraiment mauvais. Ce que j'ai écrit aujourd'hui, c'est terrible. Je n'y arriverai pas. Il n'y a rien dans ce roman-là. Il ne se trouvera pas de lecteur. Alors... 300 pages de ça.
Vous évoquiez le film de John Ford. Oui. Je n'avais pas pensé vous poser la question et c'est pourtant une évidence. Vous êtes cinéaste, vous vivez dans le cinéma et vous êtes aussi un grand lecteur, on le sait. Mais est-ce que vous entretenez une certaine méfiance sur les adaptations cinématographiques de romans? Oui. Avez-vous découvert des romans grâce au cinéma? Quel lien entretenez-vous avec ce mariage parfois terrible?
Parfois terrible, c'est vrai. Mais parfois,
il y a miraculeux.
Parfois miraculeux. Je pense à The Sweet Hereafter de Atome Egoyan,
oui.
D'après
Russell Banks. Merci, monsieur.
Alors j'ai vu le film avant de lire le roman.
Oui.
Et quand j'ai lu le roman, je me suis rendu compte à quel point
le film
Egoyan a fait une adaptation formidable. Il a restructuré, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait du cinéma avec une matière littéraire. Mm-hmm. On peut pas vouloir faire de la littérature avec du cinéma. Mm-hmm. Mais j'oublie le nom du réalisateur, mais celui qui avait adapté L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera.
Philippe Kaufmann.
Ça aussi, c'était
oui.
Vraiment du cinéma.
Il ne faut pas dire ça à Kundera, mais...
Ah non, non, mais c'est sûr, il a dû se sentir trahi.
Bien évidemment.
Mais c'est un film qui existe.
Oui.
Mais bon, très souvent, les adaptations sont...
Ou Sous le soleil de minuit.
Oui, ben oui. Mouchette. Ça, oui.
D'ailleurs, bon, on revient, vous me direz encore, à la tradition française, mais Bernanos.
Oui.
Toute cette époque, hélas, oubliée, qui m'est très chère, des contemporains d'André Gide, des grands de la NRF, Bernanos, Péguy, Roger Martin Dugard, ce sont des auteurs que vous avez lus.
Beaucoup, et que j'admire. Il y a chez Bernanos quelque chose qui me renverse, cette honnêteté décapante, c'est pas le mot que je veux, mais Bernanos, royaliste de droite, qui réagit comme il a réagi pendant la guerre d'Espagne, qui s'est retourné contre son camp naturel, qui a dénoncé les crimes des franquistes, il faut lire « Les grands cimetières sous la lune », c'est un livre extraordinaire. Mais il faut lire aussi ses écrits de combat, « Les enfants humiliés »,« Mon Dieu, la liberté, pourquoi faire », tous ces grands textes. C'est d'une lecture assez ardue aujourd'hui parce que les référents culturels et politiques nous manquent. C'est du travail. Mais quel extraordinaire regard sur l'époque, sur l'espèce de perdition morale dans laquelle nous vivons. Oui. Il n'a jamais perdu le sens de l'honneur, c'est-à-dire le sens de ce qui est plus grand que nous. Et ça transparaît dans toute son écriture, dans ses romans, comme dans ses écrits de combat. Mais quel extraordinaire polémiste, comme Péguy d'ailleurs.
Oui. Qui n'était pas qu'un adorateur de Jeanne d'Arc.
Non. Par contre, moi, j'aime beaucoup la poésie de Péguy. Je peux lire et relire Le Porche du mystère de la deuxième vertu. Ève, qui est un poème absolument admirable. Mais il y a aussi chez Péguy cet observateur brillant de son époque, critique. Un de ses textes magnifiques s'intitule « Les suppliants parallèles ». Et il établit un parallèle, il l'a écrit en 1905, il établit un parallèle entre une manifestation en Russie de paysans, de citoyens qui étaient allés supplier le souverain de l'archer du lest. Je perds le détail. Mais bon, il s'était fait tirer dessus. Et il fait un parallèle entre ça et Sophocle, les suppliants. C'est-tu Sophocle, les suppliants?
Oui.
Je pense que oui.
Oui.
Texte extraordinaire où il se promène du russe, des traductions russes au grec. Et il y a quelque chose de... C'est quand même fantastique de pouvoir réinterpréter l'actualité. Qui ferait ça aujourd'hui? Mm-hmm. Quel écrivain pourrait aujourd'hui faire le lien entre... le 11 septembre et la tragédie grecque.
Don de Lillo.
Oui, effectivement. C'est vrai, qui est un romancier que j'aime vraiment beaucoup. Et Don DeLillo, qui, il y a une phrase de lui que j'ai toujours gardée, dont je me suis toujours souvenu. Il écrit à un moment donné, « Capitalism burns off nuance in the culture. »
Oui, oui, oui. Vous avez cité ça quelque part.
J'ai vu. Oui. Oui, oui, oui.
C'est peut-être dans votre livre
d'entretien. Tout à fait. C'est la culture de masse qui gomme toutes les nuances, toutes les subtilités, toutes les hiérarchies.
Alors, vous disiez il y a un instant, qui sont les écrivains qui auraient un tel regard?
Oui.
Ça m'amène évidemment à vous parler de la littérature française actuelle. Mm. Il y a quelques années, un poète et essayiste que vous aimez beaucoup, Pierre Ouellet, a préparé un numéro spécial de la revue Liberté consacré aux écritures françaises actuelles. Permettez-moi de vous lire, Bernard, quelques phrases tirées de son introduction. J'ai l'impression que ça va vous intéresser. Qu'en est-il des Proust d'aujourd'hui, des Valéry de demain, des Giono ou des Artaud de notre fin de siècle qui semblent si peu littéraires et qui l'étant pourtant, à en juger par le nombre de poèmes et de romans qui paraissent chaque année à un rythme soutenu? Le personnage public du grand auteur est mort. Et avec lui, l'esprit de secte où l'effet de groupe manifeste et tracte mots d'ordre et de ralliement. L'écrivain est mort, vivent les écrivains avec un petit e, pas du tout muet, et l'es final qui dit leur nombre et leur diversité. On n'écrit plus comme un seul homme, l'homme surréaliste, l'homme existentialiste, l'homme structuraliste, que sais-je encore, mais comme l'homme seul qu'on est avec sa voix unique. Et je cite encore seulement une phrase, « Le poète, l'écrivain sont des personnages privés, on ne le dira jamais assez, privés de tout et de communauté, si l'on peut se permettre ce mauvais jeu de mots, privés même d'identité. » Intéressant, comme si en 1980, avec la mort de Jean-Paul Sartre, était mort le dernier grand écrivain, et on le remarque depuis 30 ans, la littérature française se tourne vers le tout petit.
L'autofiction.
C'est peut-être l'aspect moins agréable de ce retour, de cette abdication et de ce retour sur soi, mais il y a aussi une attention chez certains auteurs formidable aux petites choses, oui. Parce que les grands combats sont impossibles? Comment vous interprétez ce repliement que l'on constate, qu'il soit positif ou négatif?
C'est bien possible que les grands combats, que ce soit plus possible de mener des grands combats. Mais je pense que les grandes choses restent, les grandes idées restent. Et moi, je ne peux pas dire que je me sens très attiré par la littérature du tout petit.
Ah non?
Non. Je m'ennuie vite. J'ai besoin d'un souffle. D'une indignation. Choses qui ne sont pas présentes dans la littérature du tout petit. Oui, c'est
alors
vrai.
Alors, vous ne prisez pas Nathalie Sarraute?
Pas des masses. À ma grande honte,
je vous n'avez pas à en avoir honte.
On parle de préférence ici.
Oui, oui.
Mais je pense qu'écrire, ça doit vouloir aussi, on le fait aussi pour agir sur le monde. Je pense que il y a une valeur dans cette écriture-là de la contemplation, dans le tout petit. Mais je pense que j'ai trop peur que ce soit une façon de baisser les bras.
Que ce soit une abdication, comme je disais.
Une abdication. Il se trouve dans cette littérature-là des choses de grande valeur. Des écrivains qui sont des stylistes extraordinaires. Mais à ces stylistes-là, je préfère des écrivains mal dégrossis. Orwell, par exemple. On ne peut pas dire que ce soit un grand écrivain. Sauf qu'il a pris son époque à bras-le-corps. Des romans comme Keep the Aspidistra Flying. Son Homage to Catalonia aussi. Ce sont des livres extraordinaires. On ne peut pas dire que c'est un grand styliste. On ne peut pas dire qu'il a été d'une grande subtilité. Mais d'un bout à l'autre dans son œuvre, il y a la volonté de de faire face au monde, de prendre ses responsabilités morales et politiques, de dire ce qu'il croit devoir être dit.
On le disait tout à l'heure, je pense qu'il faut partager la chose avec les gens présents ici ce soir. Vous êtes allé voir La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès.
Texte magnifique, magnifiquement porté.
C'est une parole, celle de Coltès, que vous avez découverte, si j'ai bien compris.
Je ne connaissais pas Coltès.
Et qui témoigne du monde.
Ben oui, qui témoigne du monde, absolument. Et c'est en même temps de la grande littérature. Quel style extraordinaire! Quel verbe! Et bon, c'était porté ce soir-là par Sébastien Ricard, qui est un acteur hors du commun.
Mais... Alors, il y a encore des écrivains en France et ailleurs qui savent témoigner du monde et qui n'ont pas abdiqué.
Non, il en reste. Il en reste.
D'ailleurs, ça va vous faire plaisir, ce cher Coltès que j'aime tant. Dès 1984, au moment de la parution de son tout premier roman, parce qu'il a écrit quelques romans, La fuite à cheval, très loin dans la ville, il disait « Le sujet... c'est toujours des gens. » Et vous vous souvenez sans doute, vous qui aimez Tchekhov, la lettre célèbre du 18 janvier 1887 que tout le monde a citée avant moi, où il disait « Le principal, c'est de ne pas humilier les gens. »
C'est tellement beau.
C'est tellement beau.
C'est tellement beau et c'est tellement important.
Ouais.
Je vois dans le cinéma québécois maintenant tant... de réalisateurs qui se sentent supérieurs à leurs personnages.
Ouais.
Je trouve ça insupportable.
Ouais.
Je trouve ça vil.
Ouais.
Mais c'est tout à fait en phase avec la goguenardise contemporaine qui recouvre tout. Non, on ne doit pas humilier nos personnages.
Je veux dire, le sujet, c'est toujours des gens.
C'est toujours des gens. Faire de la littérature, écrire. Faire des films, faire du cinéma, c'est porter un regard sur l'autre.
Or, et vous l'avez dit dans vos entretiens, c'est une des premières choses que vous dites, la littérature vous a permis de sortir de vous-même, d'aller vers l'autre.
C'est Georges Tanner qui dit que l'art est une rupture, doit être une rupture et une rencontre. Une rupture parce qu'il doit, casser nos certitudes, nous faire rompre avec nos prénotions qui concernent le monde, nous faire sortir de nous. Mais c'est une rencontre. Parce que, par la littérature, on va rencontrer pas juste un écrivain, mais aussi ce qu'il décrit. On peut rencontrer un auteur, mais on peut rencontrer une réalité. On peut...
être confronté à une altérité radicale.
Absolument.
Qui nous déplace.
C'est tout à fait le cas chez Coltès.
Oui.
On rencontre un auteur extraordinaire qui a une maîtrise de la langue époustouflante, mais on rencontre aussi un autre.
Oui.
Quelqu'un qui est radicalement autre.
Oui. Et qui cherche à établir un contact avec nous.
Ben oui, c'est ça.
Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, vous avez préparé un montage de texte de Pierre Vadeboncœur avec l'écrivain Yvon Rivard. Vous vous souvenez qu'Yvon a déjà dit que pour lui, la principale qualité d'un écrivain, c'était la compassion.
Ah oui. Bon, on revient à Tchekhov encore. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde la lecture du dernier livre d'Yvon, qui est magnifique, « Une idée simple », où, à travers des articles sur toutes sortes des livres, des films, il revient avec cette idée que la littérature, l'art, doit servir.
Oui.
Mais on revient à Tchekhov, la compassion. Mais ce qui est formidable chez Tchekhov, c'est que ce n'est pas de la compassion bonasse. Il y a chez Tchekhov une ironie terrible.
Et il est parfois très dur à l'égard de nous, petits humains trop lâches, trop veules, trop hypocrites.
Mais en même temps, l'ironie ne fait jamais disparaître la compassion. Et c'est ça qu'il y a de beau, c'est ce mélange de lucidité et d'amour.
Il nous répète « Est-ce ainsi que les hommes vivent? »
Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, c'est un bonheur de lire Tchekhov, c'est un bonheur d'avoir ses pièces. Moi, je pense que si on me donnait le choix de partir sur une île déserte avec...
Vous partiriez avec les trois tours
avec les trois tours dans la Pléiade, oui.
Mais d'ailleurs, ce n'est pas un écrivain, permettez-moi de me faire l'avocat du diable, inscrit dans l'histoire comme un Tolstoï, par exemple.
Mais l'histoire est toujours présente chez Tchekhov, à mon sens. Il ne perd jamais de vue les conditions de vie des gens.
On se rappelle la nouvelle Les Huîtres, par exemple.
Et dans Oncle Vania, cet écologiste avant la lettre, il était très...
Oui.
Et bon,
La forêt gémit sous la hache.
Mais oui, et il faut voir aussi Tchekhov partant aux confins de la Sibérie pour faire son enquête à l'île de Sakhaline.
Alors, écrivant la salle numéro 6.
Mais oui. Alors, ça n'est pas parce qu'un écrivain ne fait pas de politique que ses œuvres ne sont pas politiques. Et moi, je trouve que Tchekhov est profondément politique. Et il porte des jugements sur son époque qu'on pourrait très bien, qu'on gagnerait à porter sur la nôtre.
Et tout ça à travers le portrait d'êtres humains.
Toujours.
Le sujet, toujours. C'est
et
toujours
sa curiosité.
Des
gens. Moi, j'imagine Tchekhov dans un wagon de chemin de fer, assis devant quelqu'un, et il meurt de savoir l'histoire de cette personne-là.
La banale histoire de cette personne-là.
Ah, la banale histoire, oui.
Vous me voyez venir.
Ben, je vous vois venir. Je suis en train d'adapter un long récit de Tchekhov qui s'intitule « La banale histoire ».
Une banale histoire.
Une banale histoire.
Une, oui.
Oui. Et ce sera le scénario, non pas de mon prochain film, mais du film suivant. C'est l'histoire d'un vieux médecin qui sait qu'il va mourir. Et la seule chose qu'il rattache à la vie, c'est une jeune femme qui a été sa pupille. On peut dire ça, son pupille? Comment on dit, toi qui sais parler français? Vous qui savez parler français? Oh, vous,
oui.
Stéphane?
Oui. Ou sa pupille, oui.
Oui, sa pupille.
Oui, oui.
Enfin,
c'est français.
C'est la fille d'un collègue qui est mort jeune et qui l'a recueillie chez lui comme sa fille. Alors, il sait qu'il va mourir. Cette jeune femme-là, à la vingtaine, la trentaine, elle a voulu être comédienne, ça n'a pas marché. Elle est atteinte d'un désespoir sans fond. Il ne peut rien pour elle. C'est juste ça. Il sait qu'il va mourir. Il ne peut rien pour cette femme-là qui est ce qu'il a de plus cher dans la vie. Ça résume toute la condition humaine. C'est d'une beauté prenante. Et à la fin, leur dernière rencontre, il sait qu'il la voit pour la dernière fois. Il ne se querelle pas, mais ça ne va pas très bien. Il se détourne de lui et va partir. Il pense qu'elle ne viendra pas à son enterrement. Et il lui dit, alors qu'elle tourne le coin et disparaît de sa vue, il lui dit « Adieu, mon incomparable. »
Je voudrais lui demander, alors tu ne seras pas à mon enterrement, mais elle ne me regarde pas, sa main est froide comme morte. Je l'accompagne à la porte sans rien dire, la voilà hors de ma chambre, elle suit le long couloir sans se retourner. Elle sait que je l'accompagne des yeux et se retournera sans doute à l'angle. Non, elle ne s'est pas retournée. Sa robe noire m'est apparue une dernière fois. Ses pas se sont évanouis. Adieu, mon incomparable.
Oh! C'est tellement beau.
C'est à pleurer, Tchekhov.
C'est à pleurer, oui. C'est tellement beau.
Il parle de littérature, ce
Ah oui, il n'est pas tendre.
Professeur. Non,
il n'est pas tendre.
La meilleure des fabrications artisanales ne peut être qualifiée de remarquable ni louée sincèrement sans restriction. Toutes les nouveautés littéraires que j'ai lues au cours des 10 ou 15 dernières années méritent le même jugement. Aucune n'est remarquable ni ne va sans un mais. Écoutez ça, c'est formidable. Il y a de l'intelligence, de la générosité, mais pas de talent. Ou il y a du talent, de la noblesse, mais pas d'intelligence. Ou enfin, il y a du talent, de l'intelligence, mais pas de noblesse. J'adore son humour.
Oui.
Et il va se livrer aux mêmes réflexions dans votre film?
Aux mêmes réflexions. Aux mêmes réflexions. Mais là, c'est le personnage qui parle.
Bien sûr. Et le contexte n'est pas le même. Il compare, entre autres, le roman russe au roman français de son temps.
Oui.
Vous devrez, bien sûr, livrer à quelques tours de passe-passe.
Quelques contorsions. Mais ça reste très près. L'adaptation va être très proche du récit. Alors, c'est un récit à la première personne. Il y aura donc une narration qui va parcourir le film.
Mais ce n'est pas tout à fait vrai quand vous disiez tout à l'heure que vous ne vous intéressiez pas trop à l'intériorité. Parce que chez Tchekhov, nous sommes dans l'intériorité, mais c'est une intériorité ancrée dans le réel, qui est tournée vers l'autre aussi. qui est toujours en contact avec l'autre.
Il n'y a jamais de... Il n'y a pas de solipsisme chez Tchekhov.
Non.
Aucunement. Les trois sœurs ont beau se torturer les méninges...
À Moscou.
Mais c'est parce qu'elles sont sur un domaine en campagne, c'est parce qu'elles sont prisonnières d'une époque de... Alors, c'est ce rapport-là de leur intériorité au réel qui est intéressant.
Et ce que je trouve mortellement touchant chez Tchekhov, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a une nostalgie de soi-même. Les personnages regrettent de ne pas être suffisamment.
Oui.
Une nostalgie de nous-mêmes qui ne sommes pas suffisamment. Les personnages sont mis à l'écart de ce qu'ils pourraient être et n'ont pas le courage d'être totalement.
Comme nous tous.
Comme nous tous.
Et c'est pour ça qu'on craque quand on lit Tchekhov. C'est pour ça qu'on pleure.
Oui.
Les personnages de Tchekhov sont portés par un idéal qu'ils renient.
Qu'ils renient? Ou qu'ils n'accomplissent
qu'ils
pas.
Qu'ils n'accomplissent pas, ils ont... En fait, ils ne le renient pas, puisqu'il y a une nostalgie, mais ils l'abandonnent.
Oui.
Ils deviennent les jouets de l'époque, de ce qui les détermine. Mais c'est ça, la condition humaine.
Oui.
Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils gardent... En fait, ils ne renient pas du tout. C'est qu'ils gardent cette espèce de croyance en quelque chose qui leur est plus grand, qui est plus grand qu'eux,
oui.
dont ils pourraient, dont ils auraient peut-être pu.
Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas?
Mais le monde, l'argent, l'époque, le régime politique, leur propre impuissance. La jalousie.
Puis un brin de lâcheté.
Oh oui, beaucoup de lâcheté. Ils sont lâches. Ils sont très lâches.
Oui.
Ils sont très, très lâches et ils nous ressemblent beaucoup.
Oui. Et au Québec, Bernard, parlez-nous des auteurs qui ont été marquants pour vous. Puisque vous êtes si sensible à cet attachement réel, je présume que Gabrielle Roy a été déterminante.
Oui, Gabrielle Roy, c'est une grande écrivaine. J'aime beaucoup, beaucoup Gabrielle Roy, vraiment. Mais aussi, moi, la littérature du terroir, 30 arpents de Ringuet, pour moi, ça reste un immense livre.
Mm-hmm.
Un des plus grands de notre littérature.
Mm-hmm.
Germaine Guèvremont.
Mm-hmm.
C'est admirable.
Mm-hmm.
J'avoue que je ne suis pas l'actualité littéraire québécoise.
Mm-hmm.
Pas plus que française ou qu'américaine, d'ailleurs. Mais...
J'ose vous dire qu'il n'a pas lu André Major.
C'est vrai.
C'est terrible, ça.
C'est honte à moi.
Honte.
Bon, mais c'est parce que je fais des films, c'est ça mon excuse. Ça m'enlève du temps pour lire.
Il faut absolument que vous lisiez les carnets d'André Major.
Je vous le promets. Je vous le promets.
Mais Gabrielle Roy a commencé par Bonheur d'occasion ou a commencé par ses œuvres plus près des enfants?
Oui, mais j'ai une affection particulière pour Alexandre Chabert.
Ah!
C'est...
qui est le plus beau roman d'Emmanuel Bove, écrit par Gabriel Leroy, oui.
Ah, c'est vrai!
Ah oui,
c'est
un roman d'Emmanuel Bove.
Ah oui, c'est vrai!
Complètement.
Ah! Oui. Je n'avais pas pensé à ça.
Oui.
Tu es un vrai lecteur.
Oui.
Oui, c'est vrai. C'est un roman admirable. J'ai longtemps joué avec l'idée de l'adapter aussi.
Ah, ce serait formidable!
Mais bon, il va falloir que
Ce serait formidable! Vous connaissez l'histoire de ce petit employé d'une caisse ou d'une banque
oui.
qui grille comme son complet gris
oui.
et qui rêve de partir, de quitter
oui.
Montréal, oui. qui va finir par le faire.
Oui, mais qui revient à la fin.
Oui.
Qui revient.
Ah, il faut adapter ça.
Mais c'est bien d'avoir parlé d'Emmanuel Bove. Oui. C'est bien d'avoir parlé d'Emmanuel Bove, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Mm-hmm. Mes amis?
Oui, mes amis, c'est formidable. Le pressentiment, c'est un livre magnifique. Très tchékovien.
Oui.
Très, très tchékovien. Alors, non, c'est vrai, hein, je ne suis pas seulement porté vers les romans qui... vers les grands récits historiques. Hein. Emmanuel Bove, ça me bouleverse.
Je n'ai pas l'impression que vous nous donnez.
Ça me bouleverse, complètement. Cette attention aux gens, aux choses, Et si ça, c'est de la littérature de l'intériorité, je n'ai vraiment rien contre.
Mais ils appartiennent à la même famille, Gabriel Leroy, Emmanuel Bov, oui. Tchekhov. Oui.
Tout à fait. C'est toujours le regard sur les autres, l'attention presque amoureuse portée aux personnages, oui. à leurs contradictions, à leurs petits mouvements, à oui. leur lâcheté, à ce qu'ils vivent dans le monde.
Le frémissement de présence inquiète.
Ah, si vous voulez.
Ben, c'est ce qui me vient en tête quand on pense à Gabriel Leroy, ben ou oui. à Bov, ou oui. à Tchekhov.
Oui.
Et je ne veux pas terminer cette conversation, parce que, bien sûr, la parole sera à vous dans un instant, sans que vous nous parliez de Pierre Vadeboncœur.
Ah oui.
Vous avez présenté la semaine dernière un montage conçu avec Yvon Rivard de textes de Vadeboncœur oui. pour rendre hommage à l'auteur des Deux Royaumes et de L'humanité improvisée. Je oui. sais que c'est un livre que vous aimez infiniment.
Oui. Oui.
Parlez-nous de lui.
J'ai eu le bonheur de le rencontrer il y a 5 ans. C'est Marie-Claude Loisel de la revue 24 Images qui avait organisé une rencontre entre nous deux. Et moi, j'avais lu quelques-uns de ses écrits politiques, mais pas les grands livres que j'ai appris à aimer depuis. Je n'avais pas lu Les Deux Royaumes, je n'avais pas lu L'Humanité improvisée.
Parce qu'il faut peut-être le préciser, l'œuvre n'est peut-être pas aussi connue que vous croyez. Il y a deux grandes périodes, si on oui. veut, dans l'œuvre de Vadeboncœur, mm-hmm. même si elles communiquent l'une oui. avec l'autre. Oui. Séparées par Les Deux Royaumes?
Séparées par Les Deux Royaumes, si on veut. Rivard dirait non, il n'y a pas de royaume.
Oui.
Mais c'est ça, j'ai eu l'honneur, le bonheur de rencontrer Vadeboncœur. Et bon, comme je savais que je devais le rencontrer, j'ai lu d'un trait, cette semaine-là, Les Deux Royaumes et L'Humanité improvisée. Et ça a été une révélation. Ça a été Il y a d'abord la beauté de l'écriture. Il n'y a personne au Québec qui écrit comme lui. On a l'impression de quelqu'un qui est un martien, un échappé du 18e siècle.
Non, non, de la NRF, de l'époque que oui. vous avez évoquée tout à l'heure.
C'est vrai.
Celle de Péguy, de oui. Gide, de Bernanos, de Martin Dugard.
Une langue magnifique. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a un lien avec Bernanos et Péguy, vraiment beaucoup. Lien moral, lien politique, c'est voilà quelqu'un qui savait qu'il y a des choses au-dessus de nous. Et que cette foi guidait dans tout ce qu'il a fait, dans son travail politique, dans son travail syndical, dans son métier d'écrivain. Je ne connais personne au Québec qui explique aussi bien le malheur que nous vivons. Je ne peux pas lire le début des Deux Royaumes sans pleurer, sans venir au bord des larmes. Quand il décrit l'état de délabrement moral, quand il décrit le tintamarre dans lequel nous vivons, qui empêche la pensée. Ah, il faut lire Vadeboncœur. Je ne me mettrai pas à le paraphraser, ce ne serait pas lui faire honneur, mais il faut lire Vadeboncœur, c'est un de nos grands écrivains.
En cette ère du fatras,
oui.
pour reprendre ses mots.
Une pensée claire, une expression précise. Et on s'est rencontrés à quelques reprises après cette première rencontre. C'est devenu quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et pour moi, il est encore vivant. Je me demande souvent ce qu'il penserait de telle idée, de tel événement politique, de tel livre. Je ne peux pas dire que c'est un père pour moi, mais il jouit pour moi d'une forte autorité morale, ses écrits. Pour moi, d'ailleurs, Vadeboncœur parlait de l'autorité, il en parlait très bien. Il disait à quel point l'autorité est quelque chose d'important. Pas l'autorité qui s'impose avec la violence, mais celle qu'on reconnaît.
L'autorité du peuple.
L'autorité du peuple, mais ça peut être aussi l'autorité d'une pensée.
Oui.
L'autorité d'une
qui
tradition
fait
culturelle.
Autorité.
Quelque chose qui fasse autorité. Et il faut lire votre bon cœur.
À commencer par les deux royaumes?
Moi, je pense. Les deux royaumes, l'humanité improvisée, qui est une magnifique critique du postmodernisme. C'est vraiment remarquable. Mais beaucoup de petits textes, sont des textes magnifiques sur Notre-Dame. Wow. Mais je commencerai par ces deux-là. Oui. Et jusqu'à ces derniers écrits qui portaient sur la foi, ses essais sur la croyance et l'incroyance, et la clé de voûte, ces deux derniers livres, qui nous amènent...
Et la foi se déclinait pour lui sur tous les modes. C'était aussi la foi dans le pouvoir d'élucidation de l'art et de la littérature.
Tout à fait, tout à fait. Et c'était cette foi en quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Quelque chose, quelqu'un, une personnalité. Il ne voulait pas nommer cela qui est plus grand que nous, mais dont il était persuadé de l'existence. Il y a une grandeur chez Vadeboncœur qu'on chercherait longtemps ailleurs, maintenant. Et il y a tout un travail d'édition qui se continue autour de ces textes. Yvon Rivard, Alain Vadeboncœur, son fils, vont publier des textes, ils vont publier des inédits, regrouper. Alors, on va pouvoir relire Vadeboncœur, il ne va pas tout être présent.
Vous êtes d'accord, Bernard, pour entendre les questions des gens dans la salle qui sûrement ont des interrogations quant à des auteurs, des textes qui occupent une place dans votre vie. Je vous demanderai de vous présenter au micro parce que notre rencontre est enregistrée pour qu'on puisse garder trace de votre parole à vous également. Allez-y, il ne faut pas être gêné.
Courage, moi, c'est une des choses que j'aime le plus. Quand je me promène en région avec mes films, s'il n'y a pas de période de questions après... Maintenant, je refuse d'y aller s'il n'y a pas de période de questions. Alors bon.
Il fallait que quelqu'un brise la glace, voilà. C'est monsieur.
Je vous écoute.
Je vais prendre le risque. C'est bizarre à vous entendre, j'ai simplement un titre en tête, « L'homme révolté ». Ah, ah oui. Dire que vous n'en ayez pas parlé.
Ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que j'en parlerai mal.
C'est le premier titre évoqué dans ce livre.
Et je ne pense pas l'avoir relu depuis.
Ah non?
Non. Alors, je ne peux malheureusement pas en parler très bien. Ça fait partie des livres que je veux relire. Mais ce que je sais, c'est que la révolte dont parlait Camus n'a rien à voir avec la révolte sans objet qui est promue par la culture de masse aujourd'hui. Cette espèce de révolte sans objet qui est partout. Il faut transgresser. Alors Camus n'était pas quelqu'un qui faisait l'éloge de la transgression, bien au contraire, c'est quelqu'un qui faisait l'éloge de la mesure. Et même dans ce livre-là. Alors, oui, la révolte, parce que le monde est mal fait. Et les gens sont mauvais. Mais ils ne sont pas que mauvais, et le monde n'est pas que mal fait. Et ça, c'est cette espèce d'équilibre-là qui est toujours présent chez Camus. Mais écoutez, je reviens la semaine prochaine après avoir relu « L'homme révolté », je vous en parle intelligemment.
Bonsoir, M. Aymon. Je m'appelle Éric Martin. Merci. Vous avez parlé tantôt des grandes choses qui existaient encore. Vous nous avez dit par ailleurs, vous n'êtes pas sûr que les grands combats soient encore possibles. Alors, j'en déduis, vous connaissant un peu, parce que je vous ai lu dans Relations religieusement, semblant, est-ce que, donc, on serait dans quelque chose comme l'espérance? Est-ce que ce serait la dernière option? Pourquoi dites-vous qu'il n'y a plus de combat possible? Ou est-ce qu'au fond, vous ne pensez pas vraiment ça, puis vous pensez qu'on peut toujours se battre?
Les combats sont encore possibles, et il faut les mener. Mais je pense qu'on ne peut plus se raccrocher au grand récit, comme avant. L'espoir qu'on a pu avoir du grand soir.
Donc le marxisme, par exemple.
Oui, je pense que ça, ces grands récits-là sont maintenant impossibles. C'est une bonne et une mauvaise chose. Ça n'est pas qu'une bonne chose. Mais il y a des combats qu'il faut mener. Et il faut tenir l'espérance. Orwell, celui-là, toujours, il écrivait que un socialiste aujourd'hui est comme un médecin qui est penché sur un patient dont il sait qu'il va mourir. Mais la seule chose qu'il peut faire, c'est d'essayer de le tenir en vie et de faire son travail de médecin. Alors peut-être qu'on en est là. Peut-être que c'est la fin de la civilisation occidentale telle qu'on l'a connue. C'est ce que je me dis très souvent en lisant le journal le matin. Mais il faut faire comme si. Il faut maintenir vivantes les choses auxquelles on croit. Il faut mener les combats.
Si vous me permettez une dernière question.
Oui.
Maintenir vivantes les choses, j'imagine que dans ça, la culture, pour vous, ce serait peut-être une des premières choses, n'est-ce pas?
Oui, c'est une chose importante. Mais je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment combattre efficacement la culture de masse. Je ne le sais pas. J'essaie de faire des films, j'essaie d'écrire des textes, mais ces films, ces textes rejoignent peu de gens.
C'est relatif quand même.
Rejoignent des gens, c'est la preuve. C'est formidable, quel bonheur. Mais... la puissance de la culture de masse est telle quand on se rappelle que la plupart de nos concitoyens passent au moins 40 heures par semaine devant leur appareil de télévision, quand on imagine l'influence que ça peut avoir, quand on sait le battage d'images, le battage publicitaire. Moi, je pense que des idées comme celle de la pauvreté deviennent presque impossibles. C'est pas impossible. Il faut continuer. Mais on se bat contre une machine épouvantable. Et je reviens à ce que la citation de Gauchet que j'ai dite plus tôt. Comment faire pour que l'autorité nécessaire à la transmission de la culture redevienne une chose possible? Comment? Parce qu'on ne transmettra pas la culture s'il n'y a pas reconnaissance d'une autorité. Or, un des problèmes fondamentaux maintenant, c'est que le mot est sacrilège. Et l'idée encore plus de dire à des jeunes gens... Alors souvent... on me demande d'aller rencontrer des classes d'étudiants cinéma. Et il m'est arrivé de m'échapper et de leur dire, parce qu'ils me demandent tous comment on fait pour faire des films, comment on fait... Et il m'est arrivé de leur dire, les films que vous pourriez faire maintenant ne m'intéressent absolument pas. Ce que vous avez à dire en ce moment ne m'intéresse pas non plus. Lisez. Cultivez-vous, vivez, et là, on en reparlera. Alors, il n'y a pas d'art valable sans un rapport au monde et sans un rapport aux œuvres.
À l'histoire.
À l'histoire de l'art qu'on pratique et des autres arts. Il n'y a pas d'art valable sans ça. Pour moi, c'est impossible d'écrire un roman. Oh, on me donnera des exemples d'écrivains illettrés qui ont fait des chefs-d'œuvre. Il ne peut pas en avoir beaucoup. Mais pour moi...
Mais il y a le fichu Rimbaud. Mais...
Ah, ben il n'était pas illettré! Ah, il y avait une culture très profonde.
Oui, oui, mais c'était quand même un garçon de 16 ans.
Oui, un garçon de 16 ans, mais qui avait beaucoup lu.
Oui, oui.
Qui avait beaucoup lu.
Comme on peut avoir lu à 16 ans.
Non, non, mais c'est ça, la poésie et les mathématiques, c'est pas pareil. On peut être génial en sortant de la boîte. Mais pour écrire un roman, pour faire un film... Comment peut-on penser écrire un roman si on n'a pas lu Tolstoï? Comment? Si on n'a pas lu Tolstoï, si on n'a pas lu Balzac, on va reproduire dans un roman qu'on va essayer d'écrire ce qu'on a vu à la télé. On est mieux de ne pas essayer. Et parce que c'est ça beaucoup le problème. C'est que, alors forcément, un auteur, un écrivain, un cinéaste, c'est une machine à influence. On est dans le monde, on vit dans le monde. On est une espèce d'huître, en espérant qu'on puisse faire une perle un jour, mais on filtre. Alors c'est sûr que la question de la transmission est pour moi essentielle. Essentiel.
Mais les lieux de transmission dans notre société et dans toutes les sociétés occidentales tendent à disparaître.
Oui, tout à fait. la chaîne culturelle de Radio-Canada, mais aussi l'école. Mais aussi l'école. Quand on ne fait plus lire les classiques à l'école, mais à quoi sert-elle? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'enseigner le Journal de Montréal? Je pense que non. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont abandonné, qui ont baissé les bras. Et pourtant, pas tous, loin de là. Il reste des gens très courageux. J'ai rencontré une jeune enseignante qui est en train d'enseigner Racine au collège. Et elle le fait avec passion. Ah! Puis tout à coup, ses étudiants découvrent ce qu'on peut dire en alexandrin. Et c'est quelque chose. Puis elle me racontait, c'était amusant. Elle leur demandait un résumé d'une scène de la pièce. Qu'est-ce qu'elle enseignait? Je me rappelle pas. Mais elle était témoin de ses étudiants qui disaient, « Ouais, mais comment on va dire ça en français, là, qu'elle veut le fourrer? » Mais c'est parfait! Alors, il faut faire ça. Il faut faire ça. Et puis bon, ben, retourner à Racine, c'est formidable. Retourner à ces grands modèles dramatiques-là. Alors, ça fait partie des choses. Ça fait partie des choses importantes à faire maintenant. Et il faut y croire. Mais il faut que je m'arrête de parler parce que... Prochaine question?
Mais il faut y croire. Permettez-moi juste une brève intervention. J'ai revu la neuvaine la semaine dernière, film de la décennie selon l'Association québécoise des critiques de cinéma. Et je vous signalais cette phrase que dit le personnage de la grand-mère avant de mourir. C'est difficile de faire le bien quand on n'a pas l'espérance.
Oui. Ouais, c'est difficile de faire le bien quand on n'a pas l'espérance, puis effectivement, on manque beaucoup d'espérance. Moi, je pense que... D'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé de la petite fille Espérance. Ah oui, on en a parlé de Peggy tout à l'heure. Mais oui, il faut avoir l'espérance. Il faut avoir l'espérance contre toute espérance.
Oui.
Il faut... Parce que l'alternative, c'est mourir. Monsieur.
Bonjour. Quelles sont les influences littéraires dans vos derniers films? Je pense en tout à votre trilogie.
Ah, tiens.
Ah, c'est intéressant. avant de passer à la trilogie, il y a une influence littéraire directe pour 20h17 rue Darling. Okay. C'est un roman de... Oh là là! Thornton Wilder. Et ça s'appelle The Bridge on the San Luis Rey. C'est l'histoire d'un jésuite qui est témoin d'une catastrophe. Il y a un pont de liane qui traverse un ravin et lui qui allait s'engager sur le pont, il voit tout à coup le pont s'effondrer et une dizaine de personnes sont entraînées à leur perte, meurent. Alors lui est torturé par une idée. Est-ce que j'ai mérité de ne pas mourir? Est-ce que les gens qui sont morts, eux, ont mérité de mourir? Alors finalement, le jésuite qui se pose toutes ces questions-là finit par être brûlé comme hérétique. Alors ça, c'est une influence directe, ça a vraiment... Mais dans la neuvaine, écoutez, d'influence directe, non. Certainement Peggy, bien sûr. Je me rappelle avoir été bouleversé. J'avais pas relu la poésie de Peggy depuis l'adolescence. Or, à 52-53 ans, j'ai relu Le Porche du mystère de la deuxième vertu, de la petite vertu.
Beau lapsus.
C'est pas mal, ça. Alors, ce poème-là sur l'espérance et sur les trois vertus théologales, la petite fille espérance entraînée par ses grandes sœurs, la charité et la foi, ça m'a vraiment donné envie de travailler autour de ça. Mais... des influences indirectes, il y en a des masses. Il y en a des masses dans la littérature du terroir québécoise. Je ne pense pas être capable d'écrire une scène de film ou un dialogue sans citer consciemment ou inconsciemment 20 auteurs. Ou sans qu'ils soient présents, en tout cas en arrière. Il y a, par contre, pour la trilogie, une influence cinématographique plus directe. Et la neuvaine est assez directement inspirée d'un film de Rossellini, Europe 51, avec Ingrid Bergman, un film qu'on ne voit plus, qui est très, très difficile à trouver. Alors, c'est l'histoire d'une femme de la bourgeoisie, une une Anglaise qui vit en Italie. Et son fils se suicide parce qu'il trouve que sa mère ne prend pas assez soin de lui. Et là, il règne tout à coup et perd le goût de vivre. Elle... Et peu à peu, elle va retrouver le goût de vivre en sortant de sa condition de bourgeoise. Un de ses amis est journaliste communiste, il l'amène dans les quartiers populaires, elle se met à faire le bien autour d'elle, à acheter des médicaments pour un enfant malade, à prendre soin d'une prostituée tuberculeuse, à éventuellement même remplacer une ouvrière dans une usine. Et là, tout à coup, elle découvre un autre monde. Elle sort d'elle-même, elle sort de sa douleur. Ce qui est tout à fait le cheminement du personnage de Jeanne Dion, le personnage joué par Élise Guilbeault dans La Neuvaine et La Donation. Alors, c'est ce long chemin pour sortir de soi-même, pour échapper à une douleur inguérissable. Et pourtant, la douleur est inguérissable, mais on peut continuer à vivre. C'est ça qui règne et que Jeanne... découvre. Courage, quelqu'un. Ah, madame.
Bonsoir, mon nom est Stéphanie Chalut, je suis artiste en arts visuels. J'ai lu votre livre, La perte et le lien, et la deuxième partie du livre, en fait, c'est vraiment toute une grosse partie du livre, parle des racines historiques du Québec, particulièrement le rapport au catholicisme, à l'Église et tout. Et vous qui vous intéressez à la perte des repères collectifs, vous faites, évidemment, depuis tout à l'heure, vous faites des liens avec ça, le rapport au passé, à l'histoire, à la transmission, à l'idée de l'héritage. Comment vous voyez le Québec de demain, justement, dans un contexte où on coupe assez radicalement avec cette histoire occidentale, disons-le, catholique, française?
J'ai très peur.
Même si c'est plus vraiment le cas, là.
J'ai très, très, très...
Moi aussi.
Très, très peur. J'ai très peur. On est très avant-gardiste au Québec. On est à la fine pointe de la destruction. De la transgression. De la soumission à la culture de masse. On a jeté par-dessus bord, en se modernisant, le rapport avec la culture de nos ancêtres, mais aussi le rapport avec la culture occidentale dans son ensemble. Mais c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait terriblement peur. J'en parlais avec M. Vadeboncœur, puis lui me disait « Oui, vous avez raison, mais moi, je ne serai plus là. » C'est pas une grosse consolation. Mais je sais, par contre, que parce qu'on est en train de vivre un cataclysme social. Moi, je pense vraiment, il y a peu d'exemples dans l'histoire de l'humanité, en dehors des périodes de guerre. Il y a peu d'exemples de bouleversements sociaux et culturels aussi importants que celui qu'on vit dans les pays occidentaux, et encore plus particulièrement au Québec. Mais je sais que on peut maintenir certaines choses vivantes. Le cinéaste hongrois Bélatar disait « On est nombreux à ne pas être nombreux. » On est quand même une centaine ce soir, peut-être un peu plus. Et bon, on peut maintenir ça vivant, en parlant à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos étudiants, aux gens pour lesquels on écrit, aux gens pour lesquels on fait des films. On ne gagnera pas. Je pense qu'on ne gagnera pas, certainement pas de notre vivant. Mais l'essentiel, c'est que ce à quoi on croit ne meurt pas. Et que ça reste le trésor d'une minorité, ça n'a pas beaucoup d'importance. En autant que ça vive. En autant que les livres continuent à être lus, que les films continuent à être vus. Mais j'ai peur. J'ai peur. Et Je réfléchis souvent à la culture de masse. J'ai vu hier soir un film très ordinaire, mais qui m'a fait pleurer comme un veau. C'est Awakenings, film américain qui est basé sur le livre de Oliver Sacks. Et un bon film hollywoodien avec des bonnes valeurs, puis des bons acteurs. Alors moi, je pleurais, c'est automatique, c'est fait pour ça. Et je me disais, c'est bon public, c'est fait pour ça et c'était bien fait. Je me disais, Bernard, c'est ça que tu devrais faire. Et ce matin, après avoir lu le journal, je me suis dit non. Je pense quand même qu'il faut qu'il reste des gens pour faire des films un peu plus difficiles. Je pense quand même qu'il faut qu'il reste des écrivains pour écrire des textes difficiles, des textes ardus. Il faut qu'il reste des philosophes, il faut qu'il reste des poètes. Alors, il y a quelques cinéastes québécois qui pourraient faire ce genre de film et bien les faire. Et bien le faire. Je leur laisse. Mais n'empêche que je réfléchis souvent à ça. Comment? Et pour moi, il ne s'agit pas de mon distributeur, celui qui distribue mes films, dit « Oui, Bernard, il faudrait que tu penses à élargir ton public. » Et je lui réponds « Non, je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais. » Et mais comment faire, je ne le sais pas. Mais chose certaine, il faut qu'on continue à faire ce qu'on fait. Il faut qu'on continue à parler à nos enfants, il faut qu'on continue à faire ce qu'on fait. Faire ce qu'on fait ce soir, tous. J'ai pas d'autre espoir que celui-là. Et je sais que ça sert à quelque chose. Je sais par contre qu'on ne gagnera pas de mon vivant, ça c'est clair. Il me reste peut-être 20 ans à vivre, ça va aller bien, bien plus mal avant que ça n'aille mieux.
Bonsoir. J'avais pas pensé vous poser de questions, mais j'ai été interpellé par quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez mentionné qu'on avait, dans la modernisation du Québec, dans les 50-60 dernières années, perdu le contact avec la culture de nos ancêtres et avec la culture occidentale en général.
Oui.
La question que je me pose, si on avait perdu le contact uniquement avec la culture de nos ancêtres et qu'on avait continué à être attaché à la culture occidentale dans son ensemble, dans sa tradition, parce que je pense que c'est ce que vous voulez dire,
ouais.
Est-ce que vraiment ça aurait été moins grave?
Non, moi je pense que les deux sont liés. Je pense profondément que les deux sont liés et que la culture populaire, je veux dire la vraie culture populaire, pas la culture de masse, la culture que nos ancêtres se sont transmis, qui vient du terroir, qui s'est développée sur des milliers, c'est quelque chose d'aussi élevé que la grande culture. Et ce sont les deux versants de la même chose. C'est un même rapport au monde qui traverse ces... Et c'est pas pour rien qu'au Québec, on rejette les deux en même temps, qu'on ne veut plus rien savoir de notre passé paysan, qui était si beau, et qu'on ne veut plus rien savoir de la grande culture occidentale. Pour moi, c'est lié. Et c'est lié parce qu'il passe à travers ça une même tradition, mais aussi parce qu'à travers la culture populaire, la vraie, comme à travers la grande culture, il y a l'idée que des choses et des valeurs nous sont supérieures. La culture populaire tournait beaucoup autour de l'héritage catholique, de la tradition chrétienne. Et je me disais l'autre jour, j'ai grandi avec l'idée que le bien était quelque chose de souhaitable. On grandissait avec des héros, des saints. Mais même Maurice Richard, à la limite. Maurice Richard, qui était grand dans son domaine, à un moment où on ne gagnait pas tant d'argent que ça, il le faisait pour la gloire. Alors, on a grandi avec ses saints, avec ses héros, avec l'idée qu'on devait se dépasser. Et moi, cette idée de la sainteté, pas celle qu'on chercherait à atteindre, parce que ça, c'est du narcissisme, mais l'idée de la sainteté comme modèle, et ça peut être la sainteté de Maurice Richard, ou du frère André, ou de la petite Thérèse de Lisieux. Que la sainteté, c'est une chose essentielle. Et c'est un non-croyant qui vous le dit. Et il y a une sainteté dans la tradition culturelle de nos ancêtres. Tous ces gestes, écoutez, ça fait pas si longtemps. Dans les années 50, on bénissait encore, c'est aux rogations, je crois, on bénissait les semences avant d'ensemencer les champs. Peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà vu ça. Je ne sais pas si ça donnait des meilleures récoltes, mais ce que je sais, c'est que ça donnait l'idée de quelque chose de plus grand que nous. Alors voilà pourquoi je dis que la grande culture et la culture populaire, c'est les deux versants de la même chose. Que ce qu'on peut trouver d'élevé chez Tolstoï, mettons, on le trouvait aussi dans la piété de nos ancêtres qui se signaient sur le passage du prêtre qui bénissait les semences. C'est la même chose. C'est la même conscience partagée de quelque chose de plus grand que nous. On en a besoin. On en a grand besoin.
Bonsoir. En premier lieu, je veux dire merci de ne pas répondre aux questions que vous posez. Je pense surtout avec le personnage de Guylaine Tremblay où on ne sait pas ce qui se passe. Elle pose la question, on le fait, puis ça finit là-dessus, puis ça se termine, puis c'est nous qui doit répondre. Oui. Ça, j'adore ça. Pour moi, ça vient me chercher beaucoup. C'est très émouvant.
Merci.
Mais je voulais savoir, la dichotomie, c'est de vouloir changer le monde, mais de se retrouver devant des publics gagnés d'avance, puis de ne pas pouvoir... Comment peut-on vivre avec ce dilemme-là?
Il faut accepter ce qu'on est. Il faut accepter le monde. C'est-à-dire que... C'est... Ah là là! C'est sûr que j'ai envie de rencontrer le plus de gens possible à travers ce que je fais. Mais en même temps, je pense que les raisons pour lesquelles je le fais sont plus importantes que la quantité de gens que j'arriverai à toucher en trahissant ces raisons-là. C'est comme ça que je m'arrange pour vivre. Mais par bonheur, les films ont un écho quand même. C'est pas si confidentiel que ça. Je sens que mon travail passe pas complètement à travers les craques du plancher. Alors le reste, c'est pas grave. Parce que ce qu'on fait ce soir ensemble, c'est quelque chose que je fais à chaque film que je fais. Je me promène en région. Pour moi, c'est extrêmement important. Parce que je pense qu'on peut faire vivre quelque chose ensemble. Et on ne se cachera pas qu'on est minoritaire. On ne se cachera pas que, comme disait mon père, le prospect n'est pas bon. Mais il faut le faire. Alors, on fait ce qu'on doit faire.
Bonsoir. Je m'appelle Awa. J'ai une question pour vous parce que depuis tout à l'heure, je vous entends dire, dans plusieurs choses, vous avez dit, quel que soit ce qui se passe, le réel reste.
Oui.
Et puis, je me dis, OK, c'est vrai, il y a une culture de masse, mais au final, tout ce qui n'est pas réel ne restera pas. Est-ce que ce n'est pas une source d'espérance un peu pour vous?
Oui, c'est formidable. Oui, on imagine dans les dépotoirs les monceaux de téléviseurs, de DVD. Mais le problème, c'est que le mal dans les esprits aura été fait. C'est ça le problème. Parce qu'effectivement, ça ne restera pas. J'espère vraiment que plus personne dans un siècle ne se souviendra du Cirque du Soleil. Je le souhaite ardemment. Mais ce que cela représente, puis ça, c'est le label de qualité de tout un courant de divertissement, le mal est fait. Mais il y a quand même quelque chose de... La bonté continue à exister. Ça, c'est mon espoir. Ça, c'est mon espoir. Il y a des gens qui vont sacrer à l'eau pour sauver un inconnu. Il y a dans les hôpitaux des gens qui... Bon, ça existe encore. Des mouvements spontanés de bonté. Le néolibéralisme n'a pas éradiqué la bonté. C'est quand même quelque chose. Ils ont essayé beaucoup. Alors ça, c'est mon espoir. Parce que ça... on peut construire là-dessus.
Et on peut construire sur le fait que près de 200 personnes sont réunies ce soir.
Formidable, ça me fait tellement
avec
plaisir.
Avec le souci que de la parole circule.
Ah oui, ça me fait tellement, tellement plaisir. Je me suis dit, il pleut, il n'y a personne. C'est formidable, vous êtes des braves. Monsieur.
Oui, Daniel Charret. Suite à quelques questions, je reçois un message un petit peu défaitiste et ça me dérange un petit peu. Donc, voilà pourquoi je réagis.
Oui.
Je ne rappellerai pas tous les éléments de votre affirmation, que pour moi c'est capital, c'est-à-dire l'humain est lié à une histoire. Mm. Et si on est sans histoire, on est comme une feuille au vent. Donc, ça m'apparaît important. Et j'interviens pour solliciter le milieu que vous fréquentez. Vous avez parlé de Van Monger plutôt. Je pense que c'est ça qu'on a besoin, de donner suite à notre histoire. Mmh. Ça prend des gens qui, au Québec, que je trouve dans les quelques interventions qu'on relève pas assez clairement, c'est qu'on a une capacité de s'affirmer. C'est-à-dire que on a une culture qui est différente de la culture anglo-américaine et
absolument.
Tout. Et pour moi, et vous en faites partie, même si je vous trouve un petit peu... très nuancé sur certaines affirmations, sur certains concepts. Mais il m'apparaît important de reconnaître que si on existe encore après 400 ans, c'est qu'il y a des gens qui ont une puissance, une capacité. Et je voudrais juste relever un concept qui pourrait caractériser de telles soirées, c'est d'en arriver à développer un langage qui nous est propre et qui vise à faire l'action la plus importante chez l'humain, de penser, c'est-à-dire, comme vous l'avez indiqué tantôt, de faire une rupture et de rentrer en contact avec un autre. Et pour moi, c'est la vitalité humaine, ça. Donc, quand vous dites la culture de masse et tout, moi, j'ai appris, pour composer avec ça, qu'on est entouré de quantités d'éléments qui nous distraient.
Ah oui.
Donc, moi, un élément qui me distrait, j'ai appris, j'ai pas de télévision à bouton, mais il faut rapidement, tu sais, tac, interrompre ce qui détériore ce qui nous est propre. Donc, en d'autres mots, j'interviens pour rappeler qu'on a une histoire écœurement forte d'affirmation. Vous en faites partie, et si j'y interviens, c'est parce que vous en faites partie en termes de capacité d'articuler de ce qu'on est comme entité collective. Et pour moi, je conclue avec ceci, c'est qu'on donnera une vitalité de plus en plus de qualité, quand vous avez parlé de pauvreté et tout. Ce qui m'apparaît, c'est d'attirer les gens à échanger. Quand vous avez dit, de briser ce qu'on est pour
aller
dans
votre
d'autres.
Sens, je rappellerai ce que Yvon Rivard a dit de Pierre Van Bonker. Il a dit qu'un peuple qui a produit un Pierre Van Bonker mérite d'exister.
Merci.
Merci.
Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Raymond.
Bonsoir.
Vous avez parlé de l'école, vous avez parlé de la culture de masse qui ne transmet plus un héritage, un savoir, etc. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler des élites? Les élites ont quand même une responsabilité à cet égard-là. Ce sont des élites qui ont scrappé la chaîne culturelle où travaillait M. Lépine. Ah, et depuis ce temps-là, on n'entend plus la formidable émission de radio sur la littérature de M.
Lépine. Les élites de ma génération ont été lamentables. Et continue de l'être. leur responsabilité est écrasante. Alors, je vous parle de la génération des 68 heures qui ont déchiré leur cravate, lancé leur veston aux orties, baisé à gauche et à droite, fumé du pot et décrété que la liberté, c'était la licence. Et qui, finalement, sont passés de la gauche au centre et du centre à la droite. Et de la droite à la droite néolibérale. Je pourrais vous nommer des noms, mais je n'ai pas besoin, vous les connaissez. Mais il n'y a pas seulement ces gens-là.
Ils se traitent de tous les noms, d'ailleurs.
Ah! Ça me fait tellement plaisir. Mais... on est responsable. On ne réglera pas la question en disant qu'on a eu des élites pourries. Jean Charest, j'ai de la peine à vous le dire, a été élu démocratiquement. Et dans Kamouraska hier, il s'est quand même trouvé plus de 30% des jeunes pour voter pour lui et son parti. 60% contre. Lui, quand même. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de notre responsabilité. Les élites, on les laisse faire, on les élit, on les laisse aller. Comment on pourrait faire pour mettre la hache dans la direction de Radio-Canada? J'aimerais bien le savoir. On s'ennuie de la chaîne culturelle, on s'ennuie de lieux de diffusion culturelle, il reste de moins en moins de salles de cinéma. Et ça, c'est pour le culturel seulement. Mais il y a des gens qui se... De voir dans les institutions culturelles la montée au pouvoir de gens qui n'ont que le pouvoir pour objet, c'est une chose terrible. On voit ça dans le cinéma, on voit ça dans les institutions, on voit ça à Radio-Canada, on voit ça partout. Et ça n'existe que parce qu'on le permet, au bout du compte. On est responsable. Mais bon, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les élites de ma génération. Mais je sais que je suis responsable de beaucoup de choses aussi, comme les gens de ma génération. Voilà, c'est la seule façon que je peux pas vraiment répondre à votre question autrement que par cette idée-là de responsabilité. Et de la nécessité de l'action, et de l'idée qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des lignes, des limites morales à ne pas transgresser, à ne pas traverser. À un moment donné, si on fait ceci plutôt que cela, on perd sa dignité. Mais c'est pas très populaire de dire des choses comme ça de ce temps-ci.
Merci.
Mais ça va peut-être revenir. La réflexion et la nostalgie. Mon Dieu, l'attachement, la nostalgie. Moi, je ne suis pas nostalgique du passé rural québécois, des familles de 15 enfants, du pouvoir des curés. Mais par contre, je sais qu'on a perdu des choses. Alors, la réflexion plus que la nostalgie, certainement. L'importance de réfléchir à ces choses-là. De voir que dans ce mouvement de modernisation-là, on a perdu des choses. Pas simplement l'idée que les choses changent et que c'est forcément mauvais, parce qu'on a aussi gagné certaines choses. Alors la réflexion, oui, la réflexion, davantage.
Bonsoir. Je sais que vous avez travaillé avec les Inuits,
oui.
Qui ont une culture orale. Malgré tout, pensez-vous qu'il y aurait quelque chose à nous apporter à nous, malgré la réalité de leur culture?
Moi, je pense que notre culture est suffisamment orale comme ça. on aurait besoin de retourner à la culture écrite. Mais bon, pour ce qui est de l'apport des Autochtones, mon Dieu, oui, bien sûr, mais on ne peut pas être contre la maternité et la tarte aux pommes. Alors, oui, la culture autochtone est importante. Mais moi, je dirais que pour les... Je ne sais pas comment dire. Moi, ce que j'ai appris le plus chez les Inuits, c'est d'avoir peur au délitement d'une culture. C'est ça que j'ai appris le plus. Que j'ai vu dans les villages inuits ce qui se passe quand les traditions culturelles disparaissent, quand les limites sautent. Et je sais que c'est vers ça qu'on va. Alors, j'ai peur. C'est sûr qu'il y a une sagesse immémoriale, mais bon. Je ne pense pas que ce soit de ça qu'on a besoin maintenant. Mais on a besoin d'avoir peur, par exemple. Très peur.
La première et la dernière question vous reviendra.
Pardon, oui. Je m'excuse. C'est parce que je partage un peu le point de vue. Je suis jeune, puis c'est vrai que ça me fait un peu peur, des fois, d'entendre ce que vous dites, parce que, dans le fond, c'est quasiment aller se jeter devant le métro, là, à certains moments, parce que c'est tellement pessimiste. Mais j'ai envie de parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, Michel Desserteaux. Mmh. Je suis un historien, et Michel Desserteaux est important pour nous, pour ceux qui font de l'histoire culturelle. Et Michel Desserteaux a écrit un livre extraordinaire, « Les arts de faire », dans lequel il explique que le petit, le dominé, a la capacité de braconner, de transformer des choses. On parle toujours de culture populaire ici, oui. Je reviens à ce que vous disiez. Oui. Et je pense qu'il faut être quand même optimiste. Quand on regarde la télé, même si c'est quelque chose qui est mauvais, moi j'écoute la radio de Radio-Canada beaucoup, j'entends des choses qui ne me plaisent pas à l'occasion, mais je réfléchis, je me dis que ce n'est pas bien ce que j'entends, que ce n'est pas bon, que ça aurait pu être plus poussé, plus fouillé. Oui. Donc, je réfléchis, bien je sûr. Prends des choses, je transforme.
Oui.
Et c'est ce que Michel Desserteaux dit. Mm-hmm. La culture populaire, on peut aussi en prendre, en laisser, et il y a toujours quelque chose à faire avec ça. Donc, je me permets juste de terminer sur une note optimiste, parce que là, franchement, il y a eu beaucoup de négatifs quand même.
Comme disait si bien Beckett, je suis désespéré, mais je ne me découragerai jamais.
Non, c'est ça. Ou alors Orwell, il faut être sans espoir, mais opiniâtre. Mais pessimiste, peut-être, mais pas défaitiste.
Sans espoir et opiniâtre, c'est pas mal, hein?
Ouais. Sans espoir pour le court terme. Mm-hmm. Mais opiniâtre, parce qu'à long terme, il faut être encore là.
Merci beaucoup, Bernard.
Merci d'être là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup.